Et c'est le journal de Bernadette Chamonas. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Responsabilité, laïcité, autorité. Jean Castex, nouveau Premier ministre, pose d'emblée les jalons de sa politique. Fermeté, mais dans le dialogue. Il annonce qu'il va négocier tout l'été pour un plan de relance. Nouvel homme à Matignon. Mais pour quel changement? Analyse de Cyril Graziani. Jean Castex, issu de la droite, comme Édouard Philippe, la droite qui ravale son amertume, vous l'entendrez. Réaction aussi à gauche avec votre invité à 8h20, Amélie.
Et oui, pour une actualité exceptionnelle. Deux invités ce matin dans le grand entretien. D'abord le socialiste Olivier Faure et puis celui ensuite qui sonde les Français pour analyser la nomination de Jean Castex. Frédéric Dabi de l'IFOP répondra à nos questions.
Dans l'actualité encore, hop, sous le choc, la filiale d'Air France va supprimer 40% de ses effectifs. Couvre-feu et plages fermées, nous serons en Floride, submergés par la vague Covid. Et à Avignon, ville triste, les trompettes n'ont pas résonné hier. Pas d'ouverture de festival.
France Inter. Je dirais que je suis un gaulliste social.
Voilà les tout premiers mots du nouveau Premier ministre pour se présenter aux Français hier soir aux 20h de TF1. Les Français qui ont découvert la voix, léger accent du Sud, du Gers, précisent les spécialistes, de Jean Castex. Et ensuite, suite de la présentation avec les valeurs qui sous-tendent sa politique.
Je dirais que je suis un gaulliste social. Mes valeurs, c'est peut-être la responsabilité, c'est-à-dire dire que on ne peut pas tout attendre de l'État. La société n'est pas systématiquement responsable de ce qui va mal. Chacune et chacun d'entre nous peut agir pour son pays. Mes valeurs, c'est la laïcité. Je ne peux pas admettre certains comportements, certaines déviances, certains replis sur toi, certains communautarismes. Mes valeurs, c'est l'autorité gardienne des libertés fondamentales. Bref, mes valeurs, ce sont les valeurs de la République.
Cyril Graziani, bonjour.
Bonjour.
Alors, question simple, pourquoi un nouvel homme à Matignon? Pourquoi ce choix?
Surtout qu'il vient de la droite, comme Édouard Philippe. Il est maire, comme Édouard Philippe. Il est tout aussi méconnu du grand public qu'Édouard Philippe au moment de sa nomination. Mais Jean Castex est peut-être plus ancré dans les territoires. Un profil utile pour apaiser les relations entre le chef de l'État et les représentants des collectivités locales. Et Nicolas Sarkozy voulait d'un Premier ministre collaborateur. Emmanuel Macron l'a fait. En débauchant Jean Castex, il y a une réelle volonté de mainmise sur l'exécutif. Le chef de l'État veut incarner les décisions qui seront prises dans les deux ans qui viennent. Preuve en est, le directeur de cabinet du nouveau Premier ministre, Nicolas Revel, venu de la gauche, un proche d'Emmanuel Macron. Tous deux ont été secrétaires généraux adjoints au début du quinquennat de François Hollande. La nomination de Castex, c'est le retour de l'hyper-présidence. C'est aussi une façon pour Emmanuel Macron de parachever son entreprise de destruction à droite en braconnant sur ses terres. Le chef de l'État joue son vatou avant 2022. Hier, en choisissant Castex, il a fait tapis.
Alors Cyril, on vous retrouve dans un instant, mais d'abord son prédécesseur à Matignon, Édouard Philippe, résume la personnalité du nouveau Premier ministre, main ferme, on l'a vu, avec les valeurs, mais esprit ouvert. Écoutez Denis Masséglia, président du Comité National Olympique, il a travaillé avec le nouveau Premier ministre pour l'organisation des Jeux 2024.
Pour ceux qui l'ont côtoyé, je peux vous dire qu'il est extrêmement politique au sens le plus noble du terme, avec la capacité à écouter, fédérer, trouver les bonnes solutions. D'ailleurs, il préside l'Agence nationale du sport dans laquelle il n'y a jamais eu de vote. Donc, on était toujours avec un consensus qui était proposé et son rôle a été essentiel pour ça.
Alors, Cyril, consensus, on vient de l'entendre, et le nouveau Premier ministre veut aussi aller vite.
Pas de temps à perdre, effectivement, même si hier, certains ministres affirmaient avec effroi n'avoir eu aucun coup de fil, mais comme l'expliquait un intime du président, en période de crise, on ne laisse pas turbuler l'écosystème trop longtemps, ça donne une image délétère du bal des ambitions. Le casting est déjà bien avancé, Emmanuel Macron et Jean Castex discutent depuis 8 jours, mais il faut respecter la parité, les équilibres politiques, les équilibres géographiques, le chef de l'État veut redessiner les périmètres des ministères autour de grands pôles, il y a aussi toutes les vérifications patrimoniales, fiscales, de conflits d'intérêts. Un gouvernement, c'est un savant dosage.
Alors, cette nouvelle équipe, merci Cyril Graziani, cette nouvelle équipe gouvernementale pourrait être connue avant la fin du week-end et déclaration de politique générale promise par Jean Castex en milieu de semaine. Quant à Édouard Philippe, il donnait le ton hier sur son avenir proche avec une photo où il pose avec des boutons de manchette en forme de tongs. Il retourne au Havre, ce n'est pas vraiment une cité conseiller balnéaire, mais il doit être réélu maire demain.
Et Bernadette Chamonas, c'est encore dans les rangs de la droite qu'Emmanuel Macron a trouvé son premier ministre.
En 2017, donc, on l'a vu, Emmanuel Macron leur avait déjà fait le coup à la droite en choisissant Édouard Philippe et les ministres Le Maire et Darmanin. Un séisme à l'époque. Aujourd'hui, la torpille ne nous atteindra pas, assurent les Républicains qui ravalent leur inquiétude, font plutôt bonne figure Élodie Forêt.
Jean Castex à Matignon, une nomination qui a surpris hier son ancien camp. On y a vu tout de suite le coup politique, dit le sénateur Roger Karoutchi. Embarrasser la droite en recrutant un sarkozyste, torpiller Xavier Bertrand qui pourrait avoir du mal à critiquer son ancien collaborateur, torpiller aussi une future candidature de François Baroin à la présidentielle en jouant à fond avec Castex la carte des territoires. Mais à la direction des LR, pas question cette fois de se laisser abattre. Ce n'est pas une prise de guerre, disent en cœur les ténors. Castex, au contraire de Philippe, ne représente rien pour l'opinion et d'en profiter pour tacler violemment un Emmanuel Macron menacé par la popularité d'Édouard Philippe, vocifère Éric Ciotti, et qui dérive désormais vers un pouvoir totalement personnel. Les LR tête haute, donc, pour le moment, attendant malgré tout avec une pointe d'inquiétude le reste du remaniement.
Jean Castex, qui il y a quelques jours a rendu sa carte au parti Les Républicains, il a expliqué hier soir pourquoi je n'étais pas content de certaines alliances qui ont permis l'élection d'un maire Rassemblement National à Perpignan, une façon aussi pour lui de donner un indice sur son positionnement par rapport à l'extrême droite. Autre actualité politique du jour, elle n'en manque pas, l'élection du ou de la maire de Marseille. Grand suspense, droite, gauche, chaque camp se déchire. Début du conseil municipal décisif à 9h30.
À 8h07 dans votre journal, Bernadette Chamonas, c'est emblématique du vaste chantier économique qui attend le nouveau Premier ministre, la crise à Air France.
Avions cloués au sol, comment éviter de couler? La compagnie a présenté son plan de suppression d'emplois hier, 7580 d'ici fin 2022. Pas de licenciement, des départs non remplacés, du moins c'est ce qui est souhaité pour l'instant. Pour sa filiale Hop, basée près de Nantes, c'est plus de 1000 postes supprimés, 40% des effectifs. Les syndicats sont furieux alors que l'État a aidé la compagnie. Air France choisit de sacrifier les salariés, estime le délégué CGT de Hop, Sébastien Grandjean.
L'État prête 7 milliards à Air France, c'est l'argent des contribuables, il devrait servir à sauver des emplois, mais au contraire, il sert à financer un plan social massif. L'État a demandé à Air France de restructurer son cours courrier pour arrêter de perdre de l'argent. Ce qu'ils veulent, c'est augmenter leur marge bénéficiaire. Depuis des années, Air France perd de l'argent sur le cours courrier, mais c'est que Air France, historiquement, sur le réseau domestique, ils assuraient en quelque sorte un service public pour le maillage territorial, pour désenclaver les régions. Et donc Air France, avec son PDG Ben Smith, très libéral, lui, il cherche à se débarrasser du réseau domestique parce qu'il n'est pas rentable. Quelque part, c'est la fin d'un service public. Après, je ne sais pas ce qu'on va proposer au monde économique situé dans les régions pour se déplacer. Peut-être que ça va être des low-cost qui vont s'implanter une fois de plus avec du moins-disant social, avec des créneaux horaires moins intéressants et tout ce qui va avec.
Et on saura plus sur les modalités exactes du plan le 31 juillet. Sans broncher, le djihadiste français Tyler Villus a écouté le verdict de la cour d'assises de Paris. 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté pour ses crimes commis en Syrie, où il fut l'un des premiers Français à débarquer en 2012. Les États-Unis sont le pays le plus exceptionnel ayant jamais existé sur Terre. Donald Trump, dans toute sa splendeur, hier pour la fête nationale américaine, célébrée ce 4 juillet sur le mont Rushmore, lieu symbolique, alors que le mouvement Lives Black Matter veut mettre à terre les symboles du passé esclavagiste des Américains. Il diffame nos héros, a tonné le président américain.
Un président beaucoup plus discret, en revanche, sur le rebond spectaculaire de l'épidémie de Covid.
Son seul message à la foule, portant rarement un masque d'ailleurs, la situation est gérée. Elle est pourtant hors de contrôle, alertait cette semaine le docteur Fauci, sommité en la matière, et sa prédiction d'explosion des cas se confirme, 57 000 hier, nouveau record. Situation critique notamment en Floride, plage de nouveau fermée, couvre-feu, Miami hésite entre inquiétude et provocation. C'est un reportage de notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips.
Marvin et sa bande de copains sont venus de Caroline du Nord pour passer le week-end et fêter ce jour de l'indépendance à South Beach, malgré l'envolée du nombre de cas de coronavirus dans le comté.
Who doesn't love Miami, man?
J'adore Miami, dit le jeune homme. Qui n'aime pas cette ville? Il y a un couvre-feu à 22h? Merde au couvre-feu. on va acheter de l'alcool, on va s'amuser, on fera une soirée à l'hôtel. Vous devriez venir. Pourtant, l'ambiance n'est pas forcément à la fête à Miami Beach. En face des bars et des magasins de maillots de bain, il y a un camion de dépistage du coronavirus avec une très longue file d'attente. Et en plus du couvre-feu, le maire Carlos Jiménez a pris d'autres mesures contraignantes. Il n'y aura pas de parade du 4 juillet cette année. Les plages sont fermées jusqu'au 6. Le couvre-feu a été décrété avant-hier, au moment où la Floride recensait en une seule journée 10 000 nouvelles contaminations. Mais pas certain qu'il permettra de ralentir la propagation du virus, dit Isabelle, qui tient un restaurant à deux rues de la plage.
Miami Beach, c'est une ville de la nuit, on vient faire la fête. Ça va éviter les regroupements. Mais est-ce que c'est efficace ?
On a rouvert trop tôt les commerces et les restaurants, disent encore beaucoup d'habitants de Miami, pointant du doigt la responsabilité du gouverneur Ron DeSantis, un républicain proche de Trump. Miami, Grégory Phillips, France Inter.
Aucune trompette dans la cour d'honneur, aucune tirade lancée avec fougue. Aujourd'hui, je vis une journée de deuil, déclare le directeur du Festival d'Avignon, qui aurait dû démarrer hier face à la scène muette, écho d'habitants qui ne reconnaissent plus leur ville. Reportage d'Isabelle Godin.
Je trouve que tout est triste, très triste. C'est plus Avignon sans le festival.
Yvette est émue, ce 3 juillet, pas d'effervescence ni d'affiche sur la place des Corsins. Franck regarde avec tristesse le terrasse quasiment vide.
Moi je suis forcément triste, moi j'ai fait tous les festivals depuis 85. Les gens qu'on voit pas, le pas de passage, pas de touristes, c'est la misère.
Un vendredi normal alors que cette journée aurait dû résonner au son des trompettes de la cour d'honneur. Joanne regrette tout le folklore qui va avec le festival.
Chaque année on vit le moment où c'est le déclic pour afficher tous ces affiches, tout le monde met les échelles, grimpe au poteau, c'est vraiment le folklore du festival. Du coup là c'est une journée comme une autre avec un beau temps et du vent, du mistral.
Même les enfants sont déçus à l'image d'Augustin qui y va en famille depuis qu'il est tout petit.
Ça fait un peu bizarre. Bah, d'habitude, il y a plein de monde et puis chaque centimètre carré, bah, y a des affiches.
Mais pour certains comme Apolline, il faut voir le bon côté de l'annulation du festival.
On est là, on profite d'une terrasse qui est vide alors qu'on sait qu'avec le Festival d'Avignon, on n'aurait même pas trouvé de place pour se garer. Je pense que c'est dommage parce que c'est vraiment ce qui fait vivre Avignon et ce qui fait vraiment l'âme d'Avignon. Mais d'un côté, on est là, on profite du soleil.
Tous les acteurs économiques d'Avignon espèrent bien que les touristes écouteront le conseil d'Apolline et seront au rendez-vous au mois de juillet.
Et le festival vit malgré tout avec une édition numérique en partenariat avec Radio France.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Merci.